Podcast Unige.
Bonjour et bienvenue sur Lifelong Learning à Unige. Je suis Raphaël Zafran et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Laetitia Gill, directrice exécutive du Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Titulaire d'un master en management, Laetitia Gill est reconnue comme une experte dans le domaine de l'innovation sociale, de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et de la philanthropie. Elle a acquis 15 ans d'expérience dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies de programmes RSE auprès des entreprises, ainsi que dans la création et l'animation de formations sur le thème des partenariats. Pendant 10 ans, elle a été secrétaire générale d'un groupe de 20 philanthropes en charge de la sélection des projets, du développement des programmes efficients et de la mesure de l'impact. Depuis 2017, elle est directrice exécutive du Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Outre le développement et le positionnement du centre comme un acteur académique de référence dans l'art lémanique et à l'international, dont elle a la charge, elle co-dirige actuellement une recherche sur la diversité dans la gouvernance du secteur non lucratif. Notre conversation avec Laetitia Gill nous a amené à définir précisément ce qu'implique la philanthropie et les particularités suisses et genevoises de ce domaine si fascinant. Nous avons également abordé la question de comment la philanthropie peut être enseignée, en particulier au vu du lancement prochain du nouveau diplôme de formation continue de l'Université de Genève, le DAS in Strategic and Operational Philanthropy. Enfin, notre discussion avec Laetitia Gill nous a aidé à mieux comprendre les enjeux de la philanthropie dans ce contexte si particulier et à découvrir comment le Centre en philanthropie de l'Université y répond au travers de ses activités. Laetitia Gill, bienvenue sur le podcast Lifelong Learning à Unige.
Bonjour Raphaël, merci de me recevoir.
Alors peut-être pour commencer par un point définition, qu'entend-on exactement par philanthropie ? Dans un entretien publié ce mois dans le magazine New Special, votre collègue le professeur Giuseppe Ugazio déclare que « Philanthropy is not only about giving money ». La philanthropie donc ne consiste pas seulement à donner de l'argent. Comment décrire ce domaine pour les non-experts ?
Alors, je suis tout à fait d'accord. Si on revient à l'étymologie du mot philanthropie, en grec, vous avez philos, qui est aimer et faire du bien, et anthropos, l'humain, mais l'humain dans sa détermination la plus générique. Donc finalement, la philanthropie peut être définie comme l'amour de l'humanité. Maintenant, quand on va un peu plus dans l'histoire, vous avez Andrew Carnegie, qui est le plus grand philanthrope au niveau historique, qui déclarait « Tout homme qui meurt riche meurt déshonoré ». Un siècle plus tard, vous avez Peyton, en 1988, qui introduit une nouvelle notion de « public good » en disant finalement « la philanthropie est voluntary giving for the public good ». Alors nous, au Centre en philanthropie, nous définissons la philanthropie comme un don volontaire en faveur du bien commun étant désormais codifié dans les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Ce qui est important, je pense, dans cette définition, c'est de noter cette notion de don et d'engagement, mais également de l'aspect volontaire. Et quand on parle d'engagement, on parle bien sûr de l'engagement financier, mais pas uniquement. Il y a aussi un engagement humain, ça peut être du mécénat de compétences par exemple, ou matériel, et toujours en faveur du bien commun.
Vous travaillez donc depuis de nombreuses années dans le domaine de la philanthropie, auquel vous avez également dédié une grande partie de votre temps libre, entre autres en tant que secrétaire général du Cercle des philanthropes. Comment êtes-vous arrivé initialement à vous intéresser à la philanthropie, puis à vous spécialiser dans ce domaine ?
Alors, j'ai commencé après ma formation en management dans le secteur privé, en entreprise, à Hong Kong, Paris et Londres. J'avais des responsabilités, j'aimais relever des défis, mais j'avais l'impression que je faisais mon travail, j'étais assez enfermée dans mon travail au quotidien. J'ai voulu prendre un peu de recul et j'ai pris une année sabbatique. Je suis partie en mission humanitaire en Inde et là, j'ai vu une autre réalité du terrain et je me suis dit, finalement, la difficulté, c'était de voir le monde que d'une partie de sa façon de voir avec sa paire de lunettes, j'allais dire. Et puis je suis rentrée en France en me disant, mais ce que j'ai fait de l'autre côté du monde, il y a des enjeux en Europe. Et j'ai mis en place un programme de parrainage culturel dans des banlieues à Paris à l'époque où il y avait vraiment un enjeu de fracture sociale. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait des préjugés de part et d'autre. Moi, en entreprise, je prenais un peu le secteur non lucratif pour des idéalistes, des utopistes, parce qu'il y a du bénévolat, on peut certains diraient de l'amateurisme, et de l'autre côté, j'ai découvert un secteur extrêmement engagé, professionnel, et qui avait également cette vision de l'entreprise peut-être capitaliste. Or, une entreprise ne peut prospérer uniquement si elle a une société autour d'elle qui se porte bien. Donc, j'ai à partir de là décidé de réconcilier un peu ces deux mondes pour travailler à plus de polarisation. Je crois que c'est un enjeu actuellement de ne pas rester entre communautés, mais de faire dialoguer les mondes entre eux. À partir de là, j'ai intégré le réseau Entreprendre pour la Cité, un réseau d'entreprises engagées. C'était très précurseur à l'époque. Et je les ai accompagnés dans leur stratégie de responsabilité sociétale des entreprises. Et là, j'ai vu des engagements sincères, pas du tout pour des enjeux marketing. Alors après, on pourra en discuter, mais je crois qu'il y avait une réelle volonté de s'ancrer dans le territoire où elle se développait pour avoir des collaborateurs et collaboratrices heureux, épanouis, efficaces. Et à travers ça, j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit « Mais finalement, ce que l'on fait au niveau de l'entreprise, nous, on aimerait bien s'engager personnellement. » Alors ça, l'idée m'a plu et je leur ai dit « Ok, on va créer un cercle de philanthropes. Moi, je veux bien que vous ayez un engagement financier, mais à la condition que vous vous engagez personnellement. C'est-à-dire que vous alliez avec moi sur le terrain voir les projets. » Et là, je crois qu'il y a eu vraiment un apprentissage réciproque où les philanthropes ont pu découvrir une réalité de terrain, voir le peu de ressources qu'avaient ces associations pour mener à bien leur mission d'intérêt général. Et les associations ont pu bénéficier de l'apport en compétences de ces philanthropes. Et à partir de là, ben voilà, vous y prenez goût, vous voyez vraiment qu'il y a un apport, il y a un respect des uns des autres et une envie commune de contribuer au bien commun. L'histoire a continué. J'ai travaillé 10 ans pour la Fondation Filias où j'ai accompagné les entreprises dans leur stratégie RSE, mais pour inclure les collaborateurs dans leur stratégie RSE, puis le Centre en philanthropie dont nous parlerons plus tard, je pense.
Alors justement, comment faites-vous le lien entre ce concept de RSE, le principe de responsabilité sociétale des entreprises, et la philanthropie ? Le concept de RSE a été critiqué entre autres car il est souvent perçu comme un outil marketing, vous l'aviez mentionné. Les mauvaises langues regrettent que les entreprises se soucient de la RSE principalement pour attirer de nouveaux clients qui se déclarent motivés et intéressés par le sujet, et donc les actions concrètes des entreprises restent généralement un peu superficielles. Comment peut-on répondre aux critiques quelque peu similaires autour de la philanthropie, telles que la thèse est portée par le chercheur américain Rob Reich, qui décrit comment le système de dons aux États-Unis, mais aussi en France, tend à exacerber les inégalités au lieu de les réduire. Il remet en cause, par exemple, les avantages fiscaux accordés aux donateurs et aux fondations privées.
Alors, pas mal de questions. La légitimité de la RSE et de la philanthropie, j'allais dire, c'est mon quotidien. Tout d'abord, je crois qu'on peut... on a défini la philanthropie, on va définir la RSE. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de définition juridique, hein, de l'un comme de l'autre. Finalement, la RSE, on pourrait considérer qu'elle désigne la prise en compte par l'entreprise des dimensions sociales et environnementales dans la conduite de ses activités économiques et dans ses relations avec ses parties prenantes. Donc elle repose donc sur une logique qui a pour point de départ les métiers et les activités de l'entreprise. Lorsqu'on parle de philanthropie, je pense qu'on peut distinguer deux philanthropies. La philanthropie traditionnelle de bienfaisance et la philanthropie stratégique, ce vers laquelle on va. Donc, il y a un point de convergence entre la RSE et la philanthropie, j'allais dire, avec notamment les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, puisque que nous soyons, que ce soit au niveau entité morale ou entité physique, ou personne morale ou personne physique, nous convergeons tous pour contribuer à ces objectifs de développement durable. Et je crois que ça, c'est vraiment une opportunité. Après, cette image de greenwashing, oui, mais pas uniquement, puisqu'on s'aperçoit bien que l'entreprise, et j'en parlais tout à l'heure, ne peut pas se développer sans prendre en compte la société. Et c'est une société qui est en croissance rapide. Donc, on voit bien aussi que l'entreprise a des attentes vis-à-vis de certaines de ses parties prenantes ont des attentes, que ça soit de la part de ses collaborateurs, les millennials, de ses actionnaires. Donc, elle ne peut plus vivre en vase clos et c'est un intérêt bien compris. Peut-être, alors on pourra en parler très très longtemps, et d'ailleurs on a un cours à l'université, hein, un cours universitaire qui traite ces sujets-là, mais je voudrais revenir peut-être sur votre point à propos de Rob Reich. Rob Reich a fait beaucoup de bruit avec son livre, hein, Je crois que là aussi, il faut remettre dans le contexte. Il s'agit d'une personne aux États-Unis, dans le contexte nord-américain. En Europe, nous avons des enjeux qui sont totalement différents. On a aussi une culture et au niveau politique, on n'en est pas tout à fait au même niveau. Après, je pense que les inégalités dans la distribution des richesses est un fait. On ne va pas le nier. On voit bien avec la crise, ça s'accentue avec la crise Covid. Mais il faut, voilà, comment faire ? Alors, on s'aperçoit que souvent, ça peut être le résultat d'une fiscalité inadéquate. Et donc, en fait, il va falloir travailler sur ces sujets-là, sur la fiscalité. Le Centre en philanthropie vient d'organiser une grande conférence internationale sur ce sujet, la première, sur le thème de fiscalité et philanthropie. On a travaillé en partenariat avec l'OCDE pour réaliser une étude inédite auprès de 40 pays pour expliquer ce qu'il en était. Parce que je crois qu'il y a toujours beaucoup d'émotionnel, finalement, sur cette surtout lorsqu'on parle des impôts. Mais on peut aussi considérer que l'État fait un formidable cadeau aux citoyens, puisqu'il y a un manque à gagner. Donc, on pourrait aussi considérer que l'État est altruiste et que les philanthropes prennent le relais de l'État qui a de plus en plus d'enjeux. On le voit bien avec la crise, que l'État ne peut relever seul. Donc, on voit bien cette complémentarité et que cette fiscalité joue un rôle essentiel, puisque dans cette étude que je vous invite à lire et qui est disponible sur le site du Centre en philanthropie, vous voyez bien que les États, quelle que soit leur origine géographique, politique et les enjeux économiques, sont convaincus de l'utilité des déductions fiscales.
Alors, vous avez mentionné les différences qui existent entre la philanthropie aux États-Unis et la philanthropie en Europe. Comment est-ce que la pratique de la philanthropie en Suisse et à Genève se distingue de ce qui est fait ailleurs ? Y a-t-il une approche spécifiquement suisse ou genevoise de la philanthropie ?
Je ne crois pas vraiment qu'elle se distingue fondamentalement. Alors, il est vrai qu'à Genève, il existe une tradition et je crois que c'est une formidable opportunité. Vous avez un biotope, un écosystème où vous avez à la fois les mécènes, les philanthropes depuis plusieurs siècles, les organisations internationales, les fondations, les organisations onusiennes. Donc, c'est une réelle opportunité d'acteurs qui se rencontrent et qui agissent ensemble. La philanthropie à Genève se caractérise par cette complémentarité, à la fois pour agir au niveau local, mais au niveau international. C'est-à-dire que lorsque vous voulez monter un partenariat, on voit que des organisations comme le Gavi, par exemple, n'est pas à Genève par hasard. Donc je crois qu'il y a cette capacité à mettre ensemble des acteurs pour développer des partenariats efficients. Et ça, c'est sur une toute petite surface, finalement. Genève est tout petit. Et je crois que c'est une réelle opportunité. On le voit bien, l'Université de Genève en bénéficie. Le Centre en philanthropie qui a été créé récemment démontre cet appétit, mais aussi cette historique de tous ces mécènes. Quand vous vous promenez à Genève, vous voyez l'impact, tout le soutien des philanthropes depuis plusieurs siècles. On peut aussi prendre Henri Dunant. On pourrait considérer que c'est le premier philanthrope, puisqu'il a incité d'autres personnes à s'engager. Donc je crois qu'il faut vraiment... La spécificité de Genève, s'il y en a une, c'est cette renommée aussi à l'international. Je vois qu'il y a vraiment au niveau philanthropie cette réputation de Genève et c'est une très belle opportunité.
Alors justement, restons en Suisse et à Genève. Vous êtes donc la directrice exécutive du Centre en philanthropie de l'Université de Genève, que vous avez mentionné. Comment ce centre a-t-il vu le jour et quels sont ses axes d'action ?
Alors, avec Henri Peter, professeur de droit et directeur du Centre en philanthropie, nous avons en fait créé ce centre en 2017. Mais il faut reprendre peut-être quelques années en arrière, ça a été une demande du rectorat. Le rectorat s'est aperçu qu'il y avait justement cet ADN à Genève, il y avait un écosystème propice à la philanthropie et néanmoins pas encore d'enseignement au niveau académique ou de recherche. Donc le professeur Henri Peter a fait un tour d'horizon de ce qui existait déjà et des manques également. Et là où au départ on pensait commencer par la création d'une chaire, on s'est aperçu que ça serait trop étriqué parce que la philanthropie est par essence transversale. Donc il a été décidé de créer un centre interdisciplinaire. C'est ainsi que le centre est né. Donc nous sommes un centre académique, c'est très important, interdisciplinaire, mais également le fruit d'un partenariat public-privé entre l'Université de Genève et plusieurs fondations philanthropiques installées en Suisse, mais pas uniquement, également en Europe. On travaille effectivement en étroite collaboration avec les différentes facultés de l'Université de Genève, et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est considéré comme une référence dans les milieux académiques et professionnels, tant en Suisse qu'à l'international. Alors, comment que fait-on concrètement ? Donc, nous avons une mission qui s'articule autour de trois axes qui sont la recherche et les publications, les enseignements et l'organisation d'événements ouverts à la cité. Et toujours avec cette approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous travaillons avec les différentes facultés, mais l'idée, quand je vous parlais de la fiscalité de la philanthropie, il ne s'agit pas uniquement de travailler sur les aspects juridiques et fiscaux, mais bien ça amène des questions philosophiques, éthiques. Finalement, pourquoi paye-t-on un impôt ? Voilà, typiquement, ou économique. Donc voilà, vraiment notre marque de fabrique, notre approche, notre particularité, c'est cette approche interdisciplinaire.
Et du coup, quelles sont les nouvelles thématiques ou même les défis que vous avez vu émerger dans la pratique de la philanthropie ces dernières années et qui sont au cœur des activités du centre ?
Alors, nous en avons vu plusieurs. Alors, je pourrais peut-être prendre nos quatre thèmes prioritaires en ce moment de recherche, qui sont « Why do people give ?»« Pourquoi donne-t-on ?» Donc, tout l'aspect, toute cette dimension de l'altruisme, altruisme pur ou impur, est-ce qu'on donne par pure générosité ? Est-ce qu'on donne pour se donner bonne conscience, vous voyez ? L'autre thème qui est la fiscalité et la philanthropie, nous en avons parlé précédemment. Nous sommes sur le point de publier un ouvrage considérable qui va rassembler un certain nombre de plus de 30 articles avec plusieurs disciplines, sur la responsabilité du professeur Henri Peter et docteur Lédiqué Hubert. Nous avons un troisième sujet qui est social entrepreneurship, CSR, RSE, on en parlait tout à l'heure, et ODD. Et enfin, un enjeu sur la diversité dans la gouvernance du secteur non-profit. Donc j'allais dire, voilà, c'est les tendances. On pourrait en avoir d'autres, mais pour nous, c'est important d'avoir quatre thèmes forts qui se déclinent. Nous avons également peut-être tout ce qui est... Nous avons la chance à Genève d'avoir le centre interfacultaire en sciences affectives. Donc nous travaillons avec lesquels nous travaillons énormément sur l'apport des émotions. Et également la chaire des fondations Edmond Rothschild en philanthropie comportementale, dont le titulaire est le professeur Giuseppe Ugaggio, qui... explore de nouveaux sujets, le lien entre les neurosciences et la philanthropie. Et je crois que ça, c'est émergent, mais très novateur, parce que c'est traité nulle part ailleurs.
Alors justement, pour revenir à un des projets, celui autour de la diversité dans les conseils de fondation, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors c'est une étude que je co-dirige avec une académique fellow du centre, Dr. Aline Kratz-Ulmer. Nous avons souhaité explorer ce sujet parce que nous avons constaté qu'il n'y avait eu aucune étude jusqu'à ce jour sur la diversité dans la gouvernance des fondations d'utilité publique. Donc si notre recherche est plus large et s'inscrit dans le secteur non-profit, nous avons décidé, j'allais dire, c'est comme le premier étage de la fusée, par faire un état des lieux à travers un sondage. Nous avons mené ce sondage durant 4 mois en 2020, de juin à septembre 2020. Et auprès de, on a eu 107 réponses complètes de fondations représentant 720 membres de conseils de fondation. Et nous avons été très surpris de voir que, à l'unanimité, les répondants sont en faveur, donc les répondants des membres de conseils de fondation sont en faveur d'une diversité. Alors attention, quand on parle de diversité, c'est pas uniquement de genre, c'est vraiment au niveau d'origine sociale, bagage universitaire, même si on est dans un secteur où il y a c'est très très universitaire, mais également en termes d'âge et d'expérience de vie. Donc en prenant cette diversité au sens large, on s'est aperçu que à l'unanimité, donc je vous disais, les répondants considèrent que la diversité contribue à l'efficience de leur fondation. Et ça, c'est très important, puisque pour nous, nous ne considérons pas la diversité en soi comme un objectif, mais comme un moyen pour plus d'efficience. dans la gouvernance. Or, la gouvernance est un enjeu pour le secteur actuellement, puisque ce sont actuellement, les membres sont uniquement bénévoles. On assiste à une professionnalisation accrue du secteur. Et donc, pour les associations comme pour les fondations, il va y avoir un enjeu d'avoir les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. On l'a vu typiquement, je vous prendrai un exemple, pendant la crise Covid, toutes ces assemblées générales qui étaient en présentiel sont passées en virtuel. En fonction de l'âge des membres des conseils, de la sensibilité, les comités ou les conseils ont réagi différemment. Donc on voit que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise sur les outils digitaux, les personnes plus avancées en âge le sont moins, sachant que 75% des membres de conseils de fondation ont 50 ans et plus. Alors, je crois que ce n'est pas forcément négatif cet aspect. Je pense qu'on le voit plutôt comme un aboutissement de vie, de dire quand on arrive à 50 ans, on se dit que finalement, en général, on a réussi un certain nombre de choses et qu'on est prêt à redonner. C'est aussi lié au fait que ce soit des activités bénévoles. Donc, quand on construit sa carrière, on a peut-être professionnel et puis souvent, en général, sa vie familiale en même temps, dans les années, quand on a 30, 40 ans, on est peut-être moins disponible ou disposé à s'engager bénévolement.
Alors, le centre a aussi pour objectif de porter des formations. Vous co-dirigez donc le diplôme de formation continue, le DAS in Strategic and Operational Philanthropy de l'Université de Genève. Parlez-nous des objectifs et des compétences visées de cette formation.
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste revenir peut-être sur les formations en philanthropie qui pourront intéresser nos auditeurs, auditrices. Nous avons actuellement 5 cours semestriels auprès de 3 facultés. Ces cours s'adressent à des étudiantes et étudiants de bachelor et master, mais sont également ouverts aux auditeurs et auditrices libres. Donc, je crois que c'est une formidable opportunité pour toute personne qui souhaiterait se former ou même se sensibiliser à ces sujets-là. Je vous invite à aller voir sur le site du Centre en philanthropie. Et puis, en parallèle, nous avons des formations continues, mais beaucoup plus courtes que le DAS. À partir de l'existant, nous nous sommes aperçu qu'il y avait un appétit fort pour des formations de qualité au niveau universitaire. Et ça, depuis la création du centre, depuis bientôt 4 ans, ça fera 4 ans en septembre 2021, des demandes de formation et ce que je vous disais, approfondies. Peut-être pas 2-3 jours, mais pour aller plus loin, puisque peu de personnes, il n'y a pas encore de formation de base en philanthropie, on espère et on y travaille, mais la situation fait qu'aujourd'hui, les gens arrivent par hasard d'horizons différents, ce qui est aussi une force, cette diversité, mais il y a un besoin de se former, alors notamment sur la philanthropie actuelle, mais la philanthropie de demain. D'où ce projet construit donc. Le centre en philanthropie, comme je l'ai dit initialement, n'est pas dans une faculté, donc on vient en appui des facultés. Donc c'est très important de voir que ce DAS que je co-dirige avec le professeur Giuseppe Ogaggio et Daniel Casley est en faculté de GSEM, donc faculté d'économie et management. Voilà, on s'aperçoit que par rapport à cette professionnalisation du secteur, il y a un enjeu de formation et qu'actuellement, il n'y avait pas de formation comme celle-ci existante en Suisse ou en Europe. Ce qui est important, nous avons fait le choix de la faire en anglais également. Je crois que trop souvent, quand on parle philanthropie en anglais, on a la vision nord-américaine. Or, on a la chance à Genève d'avoir la maîtrise de l'anglais et de pouvoir, au niveau de la recherche, au niveau des intervenants. Donc, je crois que ça sera très important d'avoir l'écho de la philanthropie européenne, du point de vue européen. Donc, pour ça, nous avons organisé un programme très structuré, qui passe d'une vision stratégique à une vision opérationnelle, tout en fournissant aux participants des instruments conceptuels et pratiques pour progresser de manière autonome. Donc ce diplôme of Advanced Studies est composé de 2 CAS, donc un CAS en philanthropie stratégique et un CAS en philanthropie opérationnelle. On est très satisfait, on a ouvert les candidatures, on a d'excellents dossiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la pluralité de ces dossiers, parce que je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a le contenu de ce qui va se passer en classe, mais il y a aussi cette dynamique entre participants. Cela confirme aussi que nous avions vu juste qu'il y a un besoin de se former et que ce programme correspond à un besoin. L'idée de ce DAS, c'est d'équiper les gens, pas tant pour une formation, mais pour leur donner un tremplin pour leurs 10 à 20 années à venir dans leur carrière philanthropique.
Quel est le public cible du coup? Vous parlez du fait que vous avez déjà reçu des candidatures. Quel est le profil type de vos participants ou participantes?
Alors, on s'adresse à des professionnels de niveau intermédiaire, impliqués dans la philanthropie, au sein d'organisations philanthropiques, basées en Suisse, mais également à l'international. On a un profil là qui vient d'Italie, également des gens qui viennent de la philanthropie d'entreprise ou de family offices, puisque nous sommes à Genève, mais aussi ceux qui ne souhaitent faire carrière dans les organisations philanthropiques. On a souhaité, avec Giuseppe Ogaggio et Daniel Castel, l'ouvrir à des personnes qui n'auraient pas encore l'expérience de la philanthropie, mais qui pourraient transférer leur savoir dans ce secteur. Je crois que c'est très important aussi de ne pas être dans un entre-soi, mais de pouvoir bénéficier des compétences de gens qui viennent, par exemple, de l'entreprise.
Alors, dans ce podcast, nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui est lié à la pédagogie, à l'articulation entre le scénario pédagogique d'une formation et les compétences que la formation vise. Comment le comité directeur du DAS a-t-il pensé la formation d'un point de vue pédagogique, justement? Et au fond, comment enseigne-t-on la philanthropie?
Alors, j'allais dire, on l'a pensé comme on a pensé le contenu, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que quand on parle de stratégie contemporaine, on doit se l'appliquer à nous-mêmes. Walk the talk, nous nous sommes dit, nous allons travailler sur un apprentissage mixte, c'est-à-dire en ligne et en classe. Alors, voilà, il faut aussi se réaliser qu'avec la crise Covid 2019, alors, je suis profondément optimiste, donc je pense que c'est une formidable opportunité d'accélérer ce type de formation. Donc ce DAS combinera un enseignement en classe et en ligne, donc avec des vidéos interactives enregistrées, mais également la possibilité pour les participants de travailler en groupe entre eux, sans le responsable de module. Et donc il y aura vraiment une interaction, ce que je disais, au niveau peut-être corps magistral, mais également entre participants. Il y aura donc cette interactivité, un travail personnel aussi, et des recherches seront exigées. Je le disais tout à l'heure, c'est un programme structuré et assez exigeant. Il pourrait y avoir des visites de terrain, par exemple d'aller voir sur place une fondation, le fonctionnement, de rencontrer des organisations internationales. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir à la fois un apprentissage en classe, hybride, donc avec des vidéos, des cours à distance et également des visites terrain.
Donc ça, c'est pour la pédagogie en général et quelques activités d'apprentissage en général également. Comme son intitulé le suggère, le DAS propose de former les participants et les participantes sur deux volets, la dimension stratégique et la dimension opérationnelle de la philanthropie. Pourriez-vous nous donner une idée de comment ceci se transpose concrètement dans la salle de classe ou dans la salle Zoom?
Oui. Alors d'abord, juste peut-être bien être clair sur les objectifs. Les objectifs, il s'agira de comprendre la philanthropie d'un point de vue systémique, de s'équiper pour maîtriser le texte qui est finalement multiforme et complexe de la philanthropie contemporaine en Suisse et internationale, et enfin d'apprendre les principes, les meilleures pratiques et les éléments stratégiques clés pour mettre en place et gérer une organisation philanthropique qui soit structurée et professionnelle et donc pérenne. Alors concrètement, ça va être des échanges, des cas pratiques avec les participants. Il va y avoir des échanges puisque, bien sûr, il y a le corps professoral qui est d'ailleurs mixte, constitué d'académiques et de praticiens, mais il va y avoir aussi toute l'expérience que vous nous apportez, les participants. Un certain nombre de personnes viennent déjà, travaillent en collaboration avec leur employeur, qui sont des fondations, donc elles vont pouvoir apporter le cas de la fondation et se nourrir de l'expérience des autres. Donc l'idée, c'est vraiment cette interactivité. Donc concrètement, on parle d'un sujet « leadership and diversity », leadership et diversité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là, dans le quotidien? Je prends un autre exemple, tout ce qui va être, alors c'est en anglais, mais définir un projet cohérent, un projet philanthropique cohérent. Alors, il y a la théorie, mais concrètement, donc là aussi, on va travailler sur des cas concrets, aussi bien en Suisse qu'à l'international.
Vous l'avez rappelé, nous nous trouvons dans un contexte particulier, non seulement d'un point de vue de la pandémie, mais également en vue de la crise économique qui est liée et dont les effets risquent de se faire sentir longtemps après un retour relatif à la normale d'un point de vue sanitaire. Comment abordez-vous le lancement d'une nouvelle formation dans ce contexte si compliqué, en particulier d'un point de vue des admissions, mais également au vu de l'incertitude qui existe sur la capacité à enseigner en présentiel ?
Oui, alors je crois que c'est finalement, ça pourrait être le moment le plus opportun pour lancer ce DAS. Pourquoi ? Parce que je crois que pas mal de personnes se réinterrogent sur leur travail au quotidien. Je crois qu'on a été pas mal secoués et il y a eu énormément de défis. On l'a bien vu, la philanthropie s'est extrêmement bien démarquée dans cette crise. Elle a pu démontrer son agilité, sa capacité à répondre à des enjeux rapidement, à être complémentaire de l'État. Et je crois que c'est les organisations philanthropiques les mieux équipées. Et là aussi, on en revient à cet enjeu de gouvernance qui avait une capacité à prendre des décisions rapidement, ont pu être très efficaces. Donc, j'allais dire, on est dans un contexte qui bouge énormément, qui est incertain, certes, mais qui s'accélère. Et pour y faire face, qu'est-ce qu'il faut ? Rien de mieux que d'être formé, d'être outillé. Et donc, cette formation continue a pour vocation d'aider ces personnes-là à pouvoir à prendre les bonnes décisions, puisque cette crise Covid-19, c'en est une, mais on le sait, il y en aura d'autres. Hein, mais de pouvoir avoir cette agilité, cette professionnalisation qui est indispensable. Alors, en plus, nous avons cette opportunité d'avoir cette formation hybride. Hein, donc ça, je pense que ça va aider. On s'aperçoit aussi que c'est... Finalement, les personnes ont envie de donner peut-être un peu plus de leur temps pour se former, pour se réinterroger. Je crois que c'est une formidable opportunité de prendre du recul tout en se formant. Et je crois que trop souvent, on est dans le comment, dans le brouhaha du quotidien, surtout dans ce secteur où finalement les ressources sont pas, peut-être pas aussi importantes que dans le secteur privé. Et on invite vraiment les participantes et participants à se réinterroger, à avoir cette prise de recul de mais pourquoi je le fais et pourquoi, mais finalement pourquoi la philanthropie et pourquoi pas le faire autrement. Tout ce qui est changement systémique, alors on en parle, mais encore faut-il avoir les bonnes personnes, puisque oui, on peut parler de changement, mais si on n'a pas des personnes qui sont convaincues de ce changement, ça ne sert à rien. Donc là aussi, ce que l'on voudrait, c'est former ces participants à avoir un mindset différent et à être prêts à accompagner ce changement systémique.
Vous parlez de changement systémique, on peut penser que la crise du Covid va avoir un impact systémique. Quel impact cette crise, à votre avis, va-t-elle avoir sur les métiers de la philanthropie auxquels se destinent vos futurs participants et participantes au DAS ?
Alors, il va y avoir une concurrence accrue, mais également des besoins accrus. Donc ça, c'est extrêmement important. Il va y avoir un besoin de connaissance des outils, on en a parlé, mais je pense qu'on en reparlera sûrement ultérieurement, mais tout ce qui est intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle, est-ce que nos participants savent de quoi il s'agit, comment l'utiliser dans le cadre de la philanthropie. Donc les métiers, ça va être aussi beaucoup plus de tout ce qui va être fundraising en ligne. Le don se démocratise, la philanthropie se démocratise. Et donc pour cela, il faut être outillé, il faut comprendre. On parle beaucoup aussi au niveau finance de tout ce qui est critères ESG, l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà, autant de connaissances que les participants acquerront et qu'ils pourront mettre en œuvre dans leur carrière. Dans leur carrière philanthropique, et je crois que pour nous, ça sera un indice de performance quand on parle de KPI, ça sera de voir à 2 ans où seront nos participants. Pour moi, ce n'est pas la formation en tant que telle, mais est-ce qu'elle sert de tremplin et elle leur permet de rebondir, mais autour d'elle, de voir quelle est finalement, ça serait presque comme faire un audit social, de voir ce qu'ils ont pu, les participants ont pu transformer autour d'eux. Et voilà. Est-ce qu'une manière de penser différemment, la manière d'aborder les sujets différemment, quand on parle d'impact des projets, est-ce qu'on a toujours cette même mesure d'impact ou est-ce qu'on réfléchit différemment ?
Et je sais que vous avez longtemps travaillé sur ces notions d'impact de projet. Au niveau de l'impact de la formation, cela semble vous intéresser également. Qu'est-ce qui est prévu pour justement mesurer cet impact du DAS dans la vie des professionnels des participants après qu'ils aient quitté le DAS ?
Voilà, alors c'est une question très intéressante. Nous y travaillons actuellement. Alors, selon le profil des participants, certains s'inscrivent à titre individuel et d'autres sont soutenus par leur employeur. employeur. Donc l'idée, dans le cas où les participants sont soutenus par leur employeur, de travailler avec la fondation ou l'organisation pour identifier des indicateurs de performance, enfin d'efficience, je préférerais d'efficience. Donc ça, c'est prévu. Et également, il y aura bien sûr une évaluation des participants de la part, donc il y a ces évaluations à part de chaque module, hein, mais au-delà, par rapport à la satisfaction ou de l'efficience de cette formation, une volonté justement de voir où, ce qu'en feront, comment les participants se l'approprieront dans leur travail au quotidien.
Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais à quoi ressembleront les métiers de la philanthropie dans 10 ans ?
Alors, effectivement, je n'ai pas de boule de cristal, mais on s'aperçoit que ça sera énormément lié aux nouvelles technologies. Ça sera également beaucoup axé, on le voit, mais sur une approche beaucoup plus transversale. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait l'environnement et qui était vu que comme en silo. Maintenant, quand on parle de changement climatique, on voit bien que ça, on aborde des questions d'éthique, économique, voilà. Et donc, cette interdisciplinarité des sujets sera beaucoup plus présente. Les métiers, il y aura des métiers qui seront beaucoup plus... comment je pourrais expliquer ça au niveau stratégique, pour l'instant, nous sommes dans un secteur encore très atomisé et je crois qu'il y a un enjeu d'avoir plus de coalition, d'avoir une réponse en mettant plusieurs acteurs ensemble. Donc de travailler beaucoup plus sur la collaboration entre acteurs.
Lors de l'épisode précédent, nous nous sommes entretenus avec le docteur Michel Girardin qui nous a parlé entre autres de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la finance. Comment est-ce que le big data et les innovations en termes de numérique, vous en avez un petit peu parlé, ont changé et continuent de changer les activités et les professions autour de la philanthropie?
Alors, elle a un impact énorme, mais je crois pas que sur la philanthropie, sur la société en général, puisque vous parlez de mon collègue sur la finance. Pour la philanthropie, la technologie transforme finalement le visage de la philanthropie. C'est une philanthropie plus jeune, plus rapide, plus d'impact. Quand on prend les nouvelles technologies, finalement, de plus en plus de jeunes. Alors, j'aime pas quand on dit que les jeunes sont égoïstes ou que l'altruisme serait réservé à une catégorie de personnes avec certains moyens financiers. Je prends à l'Université de Genève ces étudiants qui donnent en ligne depuis leur portable, ils n'attendent aucun reçu fiscal par derrière, vous voyez. Donc, je crois qu'il y a un altruisme qui est différent, mais qui se démocratise. Et ça, on peut que s'en réjouir. Donc, l'impact des big data et des nouvelles technologies va permettre à une philanthropie d'être plus efficiente, plus rapide, mais aussi peut-être de rationaliser. Dans le secteur de la philanthropie, on a beaucoup d'émotions et c'est aussi important de pouvoir rationaliser. Je vous parlais tout à l'heure des émotions. On a organisé un événement sur le rôle des émotions positives dans l'engagement philanthropique. On voit à quel point ces émotions, lorsqu'elles sont étudiées, peuvent être un accélérateur pour donner plus. Donc ça, c'est important. Par rapport au big data, on voit Giuseppe Ugaggio fait un travail formidable de cartographie, en fait, des fondations en faveur des objectifs de développement durable et d'analyser, en fait, les mission statements des fondations grâce à l'intelligence artificielle. Et maintenant, il élargit avec le professeur Florian Kova sur le rôle des émotions. Donc, c'est intéressant. Big data, émotion, on n'aurait jamais pensé que ça allait ensemble. Et pourtant. Donc, en fait, les big data vont être un accélérateur pour pouvoir être plus efficace, plus efficient. Mais pour ça, il faut se former. Et là aussi, on pourrait se dire, il y a aussi un enjeu pour le secteur philanthropique, c'est former les personnes qui y travaillent et s'assurer également que les bénéficiaires ne sont pas écartés de cet accès aux nouvelles technologies. Et on le voit typiquement, il y a à la fois c'est une accélération, mais il y a un risque très très important de mettre à l'écart une partie de la population.
Vous mettez donc au cœur du domaine de la philanthropie ces émotions qui nous distinguent finalement des machines. Oui. Les métiers de la philanthropie sont-ils donc des métiers profondément humains ?
Oui, et je crois que c'est vraiment... tout ce qui est big data au service de l'humain. profondément humain, certes, mais il ne faut pas oublier l'importance de la formation. On le voit, donc, nous sommes des animaux sociaux, on est en interaction permanente. Finalement, dans un projet, ce qui fait un projet, c'est aussi bien le projet que les personnes qui gèrent ce projet. Et donc, il faut, c'est des métiers, il y a effectivement de l'humain, mais également une nécessité d'être professionnel, d'être expert et d'avoir des outils. On s'aperçoit de cela depuis plus de 3 ans et demi au centre en philanthropie, qu'il y a vraiment cette nécessité de se former et de réfléchir, j'en parlais et j'en reparle parce que pour moi c'est très très important, au pourquoi au-delà du comment. Et à l'Université de Genève, je crois qu'on a tout un pôle de compétences, aussi bien au niveau de la formation universitaire que la formation continue, comme le cadre de SDAS, une formidable opportunité de pouvoir offrir au public, à la société au sens large, cet accès à cette formation, dans un contexte où Genève est propice à la philanthropie.
Voilà, nous arrivons donc à la dernière partie, à la conclusion de notre entretien, durant laquelle nous cherchons à récupérer quelques conseils et des recommandations concrètes pour nos auditeurs et auditrices. Quels seraient vos conseils donc aux personnes qui seraient intéressées de se former et de travailler dans le domaine de la philanthropie ?
Alors, d'avoir une certaine agilité, d'avoir une ouverture, je pense que de temps en temps, le secteur philanthropique peut être perçu comme un entre-soi. Et je crois qu'on gagne toujours à avoir une vision différente, à pouvoir échanger, d'avoir cette ouverture sur le monde, d'avoir cette pluralité de points de vue. Parce que quand on parle de diversité, quand on parle de diversité de genre, si vous n'avez que des femmes à un conseil de fondation, vous n'avez plus de diversité. Ce qui est important, c'est cette intelligence collective de mettre ensemble, et c'est ce que nous cherchons à travers le DAS notamment, d'avoir des compétences multiples qui sont mises en commun. Donc cette interaction. Par rapport aux compétences, là encore, j'en reviens à la formation qui est encore extrêmement importante.
Et pour finir, la question que nous posons à nos invités à la fin de chaque épisode, avez-vous des suggestions de lecture pour aller plus loin ou des lectures qui vous ont particulièrement marqué ?
Oui, alors dans le secteur de la philanthropie, vous en avez énormément. Une lecture en particulier, non, mais en tout cas plusieurs articles. Alors en fonction de l'intérêt que vous avez, auditeur, auditrice, je vous conseille de consulter le site du Centre en philanthropie où nous mettons en ligne un certain nombre d'articles. Nous avons notamment publié un numéro spécial d'Expert Focus en 2019 qui montre l'interdisciplinarité de la philanthropie avec un certain nombre d'articles. Nous avons également peut-être des lectures, on a l'exemple du podcast aujourd'hui, nous avons fait le choix de mettre en ligne et à disposition tous nos événements sur le site du Centre en philanthropie, donc c'est gratuit, c'est mis en ligne, et donc les auditeurs, auditrices, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut visionner les événements. Et là, je crois que vous aurez déjà une bonne palette de sujets.
Laetitia Gill, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette conversation fascinante autour de la philanthropie. Un grand merci également à mon collègue Michel Raymond pour la technique et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève.
Podcast Unige.